Le retour en force à Cool FM avec Adam Veilleux et Olivier Turcotte.
On va maintenant aller s'entretenir avec la directrice de la santé publique de Chaudière-Appalaches, la docteure Liliana Romero. Bonjour, Madame Romero, ça va bien?
Bonjour, Monsieur Veilleux, ça va bien?
Oui, vous? Merci d'être avec nous. Donc, on voulait faire un peu le point aujourd'hui concernant les variants, puisque on semble avoir quelques cas de variants dans notre région. Cependant, sur le site officiel de l'INSPQ, on n'a aucun cas déclaré. Est-ce qu'on peut savoir exactement, est-ce qu'on a trouvé des variants en Chaudière-Appalaches?
Oui, on a trouvé des variantes en Chaudière-Appalaches. Je vous dirai que présentement, parmi nos cas actifs dans la région, 20% sont des cas de variantes. Maintenant, pour quelle information au niveau du site web de l'Institut national de santé publique est différent? Ça, c'est parce que les tests utilisés sont différents. L'Institut rapporte les variants qui sont déjà confirmés par les tests génétiques. Et encore, nous n'avons pas reçu aucune confirmation par test génétique. On a fait les tests, que c'est la première phase, qu'on appelle le criblage. Et donc, avec le criblage, nous avons 20% des cas dans la région.
Donc, la prochaine étape, est-ce que c'est ce qu'on appelle un peu le séquençage pour savoir, pour confirmer et également savoir quel type de variant on a ici dans notre coin?
Oui, c'est ça. Et nous sommes encore en attente de résultats.
Donc, on peut présumer peut-être que c'est le variant britannique, puisque en gros, si on regarde dans ceux qui ont déjà été séquencés ailleurs au Québec, on a beaucoup plus du variant britannique. Là. On n'a pas eu courant des autres variants, que ce soit Afrique du Sud ou Brésil.
Mais pour les résultats préliminaires du criblage, et étant donné que plusieurs de nos cas sont très associés à des éclosions dans la capitale nationale, c'est très probable que ce soit la variante britannique, mais encore on n'a pas la confirmation.
Donc, ce qu'on a remarqué, bon, ça fait déjà plus d'une semaine là, qu'on pense avoir, qu'on soupçonne le variant d'être présent dans notre région, mais il ne semble pas avoir eu de grosses éclosions majeures, somme toute, malgré la présence de ce variant, dans les écoles du moins.
Écoutez, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que dans la dernière semaine, nous avons doublé le nombre de cas. La semaine précédente, on avait un moyen de 7 cas par jour. Cette semaine, on est à 14 cas en moyenne par jour. Deux fois et demi, le nombre de cas en augmentation au niveau de la Beauce. Mais c'est partout, je dirais pas là, l'augmentation. Au niveau des éclosions, la bonne nouvelle, c'est qu'à exception d'un milieu où il y a une éclosion associée à des variantes, les variantes ne sont pas encore rentrées à des résidences pour personnes âgées. Ils ne sont pas touchés non plus de grosses entreprises. Mais écoutez, il faut être très vigilante. Et chez nous, quand je dis chez nous, au niveau de la direction de santé publique, on travaille très fort afin d'éviter une troisième vague dans la mesure du possible.
On va certainement se réjouir que le variant soit pas entré dans les milieux de vie hébergeant des aînés parce qu'on sait qu'ils sont plus vulnérables. Est-ce qu'il est possible d'avoir l'information concernant, bon, il y a une seule éclosion en milieu hébergeant des aînés en Beauce actuellement, c'est à la résidence d'Oiseau Bleu, mais on parlait que la vaccination, du moins la première dose, avait été livrée pas mal dans tous les milieux. Est-ce que ces personnes-là étaient vaccinées? Est-ce que c'est des personnes qui avaient refusé? Est-ce que l'information existe?
Mais écoutez, c'est sûr qu'on n'a pas l'information, mais je n'ai pas l'information avec moi dans ce moment, mais c'est une excellente question. C'est sûr qu'il faut dire que les résidences pour personnes âgées, ça fait moins d'un mois qu'ils étaient vaccinés. Et donc, au niveau de l'immunité des personnes âgées, il faut dire que ça prend plus de temps à que les vaccins fassent effet. Par exemple, si je me fais vacciner, dans les prochains 14 jours, je vais développer mon immunité et en 12 semaines, je vais être protégé. Okay? Je vais être considéré protégé, même avec une première dose. Dans les cas de personnes âgées, l'immunité est plus fragile. Donc, dans la place de que ça prend 12 semaines, ça peut prendre jusqu'à un mois. Donc, ça, c'était des milieux où la vaccination avait été de façon récente. Mm-hmm. Donc, c'est fort probable qu'encore les personnes n'avaient pas développé l'immunité contre les virus.
Si on regarde encore au niveau des variants, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que vous savez, est-ce que vous avez assez d'études pour dire comment ça se fait qu'il est plus contagieux? Est-ce que c'est au niveau des gouttelettes? Est-ce que c'est au niveau du toucher? Est-ce qu'il rentre plus facilement à travers les masques qu'on a? On essaie de comprendre pourquoi il est plus contagieux que la souche première de la COVID.
Bien, au niveau des variants, c'est sûr qu'on a fait les données disponibles, c'est surtout les données au niveau du Royaume-Uni ou même au niveau de la situation en Montréal. Il y a des études qui sont en cours pour vraiment déterminer pourquoi est-ce que les variants sont plus faciles à transmettre. Et ce qu'on voit dans ces études, c'est que la propagation est plus rapide. La contagiosité aussi, c'est plus rapide. Il y a plus de virulence. Pourquoi la façon de se transmettre, c'est la même. Hein? Ça ne change rien. Donc,
c'est les gouttelettes, dans le fond. La majorité, c'est les gouttelettes dans l'air.
C'est la même façon de se transmettre, c'est les gouttelettes, c'est les contacts avec les surfaces infectées, c'est la proximité, bien sûr, mais simplement, c'est que le virus a une façon plus rapide d'attraper l'humain, si on peut le dire de cette façon.
Si on regarde au niveau de la vaccination, ça va quand même, somme toute, assez bien. Même le premier ministre hier et le directeur de la santé publique ont dit que d'ici le 24 juin, notre fête nationale, tous les adultes qui souhaitent être vaccinés vont pouvoir le faire. Est-ce qu'en Chaudière-Appalaches, c'est réalisable, c'est ce que le premier ministre semblait dire, mais est-ce qu'on a tous les vaccins nécessaires présentement pour dans les prochaines semaines pour le faire?
C'est sûr qu'on s'attend à recevoir dans les prochaines semaines une délibération importante du vaccin. Ça va nous aider. Au niveau du CIS, du Chaudière-Appalaches, nous avons la capacité de vacciner environ 40 000 personnes par semaine. Donc, ça veut dire que si nous avons plus de vaccins, on sera en mesure de le faire. Pour le moment, il y a déjà presque 3000 personnes qui sont vaccinées. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, nous serons bien sûr en mesure d'attendre l'objectif du premier ministre de vacciner les personnes avant la fête de Québec.
Est-ce que vous allez solliciter un peu comme à Montréal les pharmaciens peut-être de la région pour vous donner un coup de main?
Ça, c'est des projets qui se travaillent en collaboration avec les ministères, oui.
Si on regarde au niveau du vaccin d'AstraZeneca, on semble voir évidemment qu'il y a une mauvaise presse de ce vaccin. À tort ou à vrai, on n'est pas capable de le savoir présentement. Il n'y a aucune donnée, en fait, qui dit que ce vaccin-là peut provoquer des thromboses, quoi que ce soit. C'est un vaccin tout à fait sécuritaire. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pour les recevoir? Et également, est-ce que nous avons ici, en Chaudière-Appalaches ou en Beauce, le vaccin d'AstraZeneca?
Oui, avant tout, je vais répondre à la question. Oui, au niveau de la Beauce et de Chaudière-Appalaches, on a trois types de vaccins pour le moment, Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Et je vous dirai que malgré les inquiétudes suscitées par ces vaccins, c'est un vaccin très sécuritaire, selon tous les études scientifiques. C'est très efficace, la même efficacité que Pfizer ou Moderna. Donc, je pense que, sincèrement, si j'ai besoin de me vacciner aujourd'hui, je n'hésiterai pas à le faire avec AstraZeneca.
La dernière fois qu'on vous a parlé, et vous le savez peut-être pas, mais vous nous avez fait office de porte-bonheur, vous nous aviez dit c'était quoi les critères pour qu'on puisse éventuellement passer en zone orange. Et c'est arrivé dans les jours qui ont suivi. Donc là, on a vu hier au Québec des zones passer en jaune. On voit un peu ce que ça peut donner, puis ça donne hâte à bien des gens. Êtes-vous capable de nous donner ce serait quoi les critères pour que Chaudière-Appalaches passe en zone jaune?
C'est une excellente question, mais je vous dirais que présentement, il y a des travaux en cours pour vraiment aller faire des critères plus clairs et des indicateurs pour les paliers jaunes, parce que comme vous voyez, hein, ça c'est une évolution. Et les paliers rouges, les paliers oranges, les paliers jaunes sont en constant mouvement et changement au niveau de ces indicateurs comme tels. Et aussi de les critères de passer d'un palier à autre. Donc pour le moment, je ne peux pas vous dire ça, mais je pense que le meilleur message à retenir, c'est que nous venons tout juste de passer en zone orange, qu'il faut laisser le temps de voir si cela aura un impact ou pas au niveau de la hausse des cas, et ça soit des cas réguliers ou des cas de variants. Et une fois que notre stabilité soit consolidée, on va réfléchir aux gens.
Parce que j'imagine aussi qu'avec la vaccination, surtout des personnes de 70 ans et plus qui avancent bon train, les CHSLD qui sont vaccinés, normalement, même si on a un peu plus de cas, ça ne devrait pas se traduire par plus d'hospitalisation dans notre coin, là.
Tout à fait. Et ça, c'est le souhait vraiment, que malgré une augmentation du cas, on puisse épargner notre système de santé afin de qu'il puisse desservir toute la population.
Merci beaucoup, Dr. Romero. Très gentil de nous avoir accordé une entrevue aujourd'hui. On vous souhaite une très belle fin de journée.